bande originale du lundi au vendredi sur France Inter à partir de 11h. Avec Léa Cadeau-Moutadi, Agnès Surstel, Albert Algo, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et notre invité Michel Sibel.
Bonjour.
Bienvenue docteur, d'autant que Ali donc vous a passé un message tout à l'heure en disant bravo et merci pour votre combat pour la vaccination.
Ah, bah ça je suis content, voilà. Mais c'est vrai qu'on en a besoin.
C'est un combat?
Ah oui, c'est un combat. Il y a, en Europe, on estime que 17% de la population européenne pense que les vaccins ne sont pas sans danger. En France, c'est 40%.
C'est incroyable.
Donc il y a quand même un petit peu de boulot d'information, plutôt de lutte contre la désinformation à faire en
ça,
France.
Ça, c'est ceux qui redoutent, enfin qui craignent ou qui sont un peu sceptiques.
Sont pas sûrs.
Et ceux qui ne sont pas vaccinés, est-ce qu'on a déjà un chiffre de ça?
Alors, je n'ai pas les chiffres des gens qui ne sont pas vaccinés, mais vous savez qu'en France, la rougeole, est chez nous, on est un des pays dans lesquels il y a une épidémie de rougeole, alors qu'il n'y en a nulle part ailleurs.
Qui est vacciné autour de cette table déjà? Moi, je ne suis pas vacciné.
Bah, si.
C'est
obligatoire.
Quand mais pas la rougeole. Peut-être pas parce que c'est plus. Mais parce que tu as dû faire la rougeole. Ensuite, toi, on se voit, je me souviens plus.
On se connaît.
Non, on se connaît pas.
Oui, c'est un truc de génération.
Moi, je parle des vaccins. Mais non, mais t'as fait des rappels, toi?
Bien sûr.
Ça dépend lesquels, normalement.
C'est un truc de génération.
Le tétanos,
c'est un truc de génération. Vas-y, non, mais explique.
Moi, je suis née en 90 et on était obligés. On se posait pas du tout la question et il y avait les rappels et j'en ai fait il y a encore pas super longtemps.
On est d'accord. On a fait. Quand on est gamin, on a. C'est sûr. Il y a tous les vaccins. Ouais. Moi, je sais pas, mais ça doit faire des siècles.
Bah, c'est pas bien, Nagui. Il faut retourner chez le médecin.
Je suis vacciné contre tout, Nagui.
Pas contre moi, apparemment.
Si. Ok, d'accord. Non, le soleil, c'est important, parce qu'il y a un certain nombre de vaccins qui nécessitent un rappel. Par exemple, le tétanos, il faut vérifier qu'on l'a fait.
Oui.
Et donc, il faut aller chez son médecin régulièrement. Mais c'est le problème du carnet de vaccination, on l'a tous paumé. Alors qu'aujourd'hui, normalement, avec le dossier médical personnalisé qui devrait avoir enfin le jour, on saura ce que vous avez eu comme vaccin.
Donc, ça ne concerne pas que les enfants, la vaccination. Ça concerne aussi les adultes.
Bien sûr que non.
Et puis, il y a des vaccins pour les femmes qui sont hyper importants. Donc, on commence à parler sur le col de.
Sur le papillomavirus.
Papillomavirus, pour éviter les cancers du col de l'utérus.
Absolument.
Ça aussi, c'est vachement important. On n'en parle pas beaucoup.
Et on n'en parle pas assez. Et en fait, il est important que les.
Et ça marche pour les petits garçons.
Les préadolescentes doivent se faire vacciner, ou les adolescentes doivent se faire vacciner contre le papillomavirus, dont la désinformation dit aussi que ça a déclenché je ne sais pas combien de trucs. Et on se pose la question de le rendre aussi, de le conseiller aussi pour les petits garçons.
Ouais.
Parce qu'aujourd'hui, on a de plus en plus, mais chez l'adulte, de cancers, notamment de ce qu'on appelle l'oropharynx, des cancers de l'amygdale, des cancers de la bouche et des cancers d'autres parties.
Parce que les petits n'ont pas été vaccinés.
Parce que nous n'avons pas été vaccinés.
Attends,
on n'avait pas le vaccin. Non, c'est parce que les adultes d'aujourd'hui, le vaccin n'existait pas.
D'accord. Moi, je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. Voilà.
Donc, allez voir votre docteur. Docteur, donc, Simès, il y a ce livre illustré, c'est une nouvelle édition, avec un poster et même un quiz très ludique à la fin. Quand ça va ou quand ça va pas, c'est extrêmement simple. Sur la page de gauche, c'est quand ça va, sur la page de droite, c'est quand ça va pas. Et puis, il y a le petit conseil du docteur en bas, c'est simple, c'est ludique, ça a le mérite d'être clair, ça a le mérite d'être très, très, très explicite. Et tout y est, on va y revenir, on va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, question concernant... Michel Simès, à 7 ans, il écrit une carte postale à ses parents de sa colo. Que leur demande-t-il?
De l'argent.
Non. Venez me chercher.
De ne pas rentrer, de adieu, salut.
Non.
Il leur demande...
D'accueillir tous les enfants chez eux.
Non.
De lui envoyer des sucreries.
Non, il envoie une carte postale qu'il a retrouvée en plus, qu'il a relue.
Il leur dit qu'il les aime pas.
Alors, c'est autour de l'amour.
Il n'est pas leur enfant.
Bah, qu'il les aimera pour toujours.
C'est ça. Il a fait un test. Je ne suis pas votre
enfant. Il a trouvé d'autres parents.
Non.
C'est pas une déclaration d'amour à ses parents.
C'est une forme de déclaration d'amour à ses parents, si.
Qu'il a trouvé une amoureuse qui va se marier.
Non. Il a 7 ans.
Bah alors.
Ok.
Bah,
non.
J'étais précoce, mais quand même.
Il a attrapé sa première MST.
Non.
Sa seconde.
Non. Ah, vous avez pas trouvé.
Il a vacciné tout le monde.
Il leur demande quelque chose en disant.
C'est difficile de trouver quand même.
Ouais, s'il vous plaît, papa, maman.
Faites en sorte que je ne grandisse plus jamais, que je reste toujours votre petit bébé.
Non, c'est un syndrome
Bambi. Dites-moi qui je suis.
Non.
Ok. Dites-moi qui je suis.
Pourquoi j'ai le prénom de Sardou?
Non.
Don Frais.
Vous leur avez demandé, et c'est pour moi une déclaration d'amour, vous leur avez demandé d'arrêter de se disputer.
Ouais, mes parents s'engueulaient beaucoup. Et j'ai retrouvé, alors je savais pas que ça avait marqué à ce point-là, mais effectivement, j'ai retrouvé cette carte postale où je leur disais, j'espère que vous vous disputerez moins quand je rentrerai.
Et alors?
Ça m'avait marqué.
Ça a marché?
Ça a marché.
C'est émouvant, en tout cas. J'imagine des parents qui reçoivent ça comme carte postale.
C'est bizarre. Mais j'ai encore le souvenir. Enfin, il faut le dire aux parents aujourd'hui. On a bien évidemment le droit de s'engueuler dans un couple. Il faut essayer de pas le faire devant le gosse parce que c'est un peu traumatisant. Et finalement, moi, ça m'a servi parce qu'aujourd'hui, je suis comme tous les couples. Il m'arrive de pas être d'accord avec ma femme. Et ben, j'essaye de le faire en dehors de la présence de notre petit garçon.
Mais à la radio, vous en parlez aisément. Qu'a-t-il trouvé chez ses parents? On embrasse Nathalie au passage. Qu'a-t-il trouvé chez ses parents lorsqu'il est rentré leur annoncer qu'il n'avait pas eu son bac?
Du mépris.
Non.
Il n'y avait personne, ils avaient déserté la maison.
Du champagne.
Exactement.
Ah ouais, la fête.
Ils avaient préparé le champagne.
Ah oui.
Le moment de solitude.
Putain, vous avez tous les moments les plus dramatiques de ma vie.
Attends, il y en a d'autres. Ça va cracher des
yeux. Il y a ce qui suit.
Je suis content d'être venu. Oui, j'ai foiré mon bac et mes parents. En fait, l'histoire est un peu compliquée, mais comme les CIMES n'ont pas eu l'occasion de faire des études puisqu'on les a dirigés vers les camps de concentration en Pologne.
Et vous en avez fait un documentaire réalisé par Jean-Pierre de Villers.
Voilà, Hippocrate aux enfers. Et donc, effectivement, j'étais le premier CIMES à pouvoir avoir son bac. Et je suis passé
donc
à côté.
C'était la fête à la maison.
Donc,
quoi.
À la maison, ils étaient tellement heureux, mes parents, qu'effectivement, ils m'attendaient dans le salon avec une bouteille de champagne. Et quand je suis arrivé effondré.
Vous avez fini par l'avoir, votre bac.
Ah oui, sinon, je serais pas médecin aujourd'hui.
Voilà.
C'est un moment. Mais je vais vous dire, c'est un moment aussi très marquant. Et je pense que c'est, puisqu'on parle beaucoup de résilience, que c'est le moment celui-là, et le fait d'avoir pas eu mon bac, alors que théoriquement j'aurais dû l'avoir, vu ce que j'avais raconté à cette prof d'histoire à l'oral, fait que j'ai une telle hargne d'y arriver que je pense que c'est ce qui fait que j'ai ensuite eu mon bac, bien sûr, et eu ma première année de médecine du premier coup.
Donc ça a servi de leçon, ce qui est extrêmement rare, vu le...
Ce qui est très rare, surtout pour un mec qui a raté son bac, si vous voulez.
Michel Docteur, Michel CIMES et ORL, avec quelle autre, avec quelle autre spécialité a-t-il hésité?
Gynécologie,
psychiatre. Exactement.
Tout de suite.
Ah bah oui.
Gynécologie.
Ouais. Et effectivement, j'hésitais entre les deux. Alors, pas pour des raisons sexuelles.
Non.
Mais c'est parce que gynécologue est un métier passionnant, surtout quand on est obstétricien. Et que je trouve, vous savez qu'en médecine, par définition, quand
l'obstétricien, c'est celui qui met au monde les enfants, point. Il fait que ça.
On peut être gynéco-obstétricien et faire la gynéco-médicale, c'est-à-dire.
L'un n'empêche pas l'autre. D'accord.
Et faire de l'obstétrique.
Mais on peut être aussi gynéco et pas forcément mettre au monde des enfants.
Oui, voilà, on est gynéco-médecin, les gynécologies médicales, ils s'occupent des cancers du sein, de l'utérus, tout ce que vous voulez, mais on n'est pas obstétricien. Et en fait, en médecine, par définition, un médecin reçoit des patients qui vont mal. Et l'obstétrique est, au contraire,
une
spécialité qui donne la vie et qui ne voit pas que des malades. Je trouvais que moi qui ai fait un stage de gynéco et d'obstétrique et qui ai mis au monde des bébés, je trouvais que les moments étaient tellement émouvants que j'avais envie de faire ça. Et en fait, malheureusement, les obstétriciens sont ceux qui payent le plus lourd tribut aux infarctus, etc. C'est la spécialité médicale qui fait le plus d'accidents cardiaques parce qu'ils sont obligés de se lever toutes les nuits pour accoucher, etc.
Et parce qu'ils ont quoi, une pression personnelle supplémentaire.
La pression, puis le fait on dort mal, on a des gardes sans arrêt. Enfin, si vous voulez être obstétricien, et vous pouvez pas demander aux femmes d'accoucher tous les jours à 10 heures. Donc c'est un métier qui est très difficile et que je voulais avoir une vie. J'avais peur de me lasser des femmes.
Oui, puis récemment, c'est un syndicat qui a fait parler de lui. Pas forcément dans le bon sens, en menaçant d'arrêter les IVG s'ils n'étaient pas reçus pour que le gouvernement entende leurs revendications syndicales. Ça n'a pas été terrible.
On va vous féliciter, Michel CIMES, pour le score d'audience que vous avez réalisé hier. 11,8% de part de marché, 1 345 000 personnes pour Ça ne sortira pas d'ici. Je parle volontairement de télévision parce que vous la regardez aussi, la télévision. Vous y êtes et vous avez du succès à la télé, mais... Que regarde Michel CIMES
Koh-Lanta
comme émission de télé et uniquement? Il a
Top Chef.
Les infos
Top Chef.
Donc globalement.
La cuisine, les divertissements.
Ouais. Ouais, mais bon.
Je ne regarde pas Top Chef parce que c'est en concurrence avec Ça ne sortira pas d'ici le mercredi soir. Non,
mais les émissions de cuisine.
J'adore les émissions de cuisine. Et je ne fais pas que ça, je regarde aussi le foot, hein, Nagui, vous le savez. Mais effectivement, je suis fan de cuisine et si je pouvais.
Est-ce que vous apprenez des choses dans les émissions parce qu'il y en a tellement d'émissions sur la cuisine. Est-ce qu'on apprend ou c'est juste un spectacle?
C'est un peu des deux. Alors, je ne fais pas que regarder ça, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est les coups, les petits trucs qu'on donne. Mais on apprend des choses. Moi, j'aime pas dans ces émissions le côté trop spectacle, justement, le côté stressant. Moi, je regarde pas la télé pour me stresser et que je trouve les candidats, c'est quand même une torture. Mais en revanche, effectivement, j'adore la cuisine et je connais Yannick Alénaud, je connais Marc Vera et tout, et je discute cuisine avec eux et ça, c'est une vraie passion.
Jean-François Piège aussi, on m'a dit.
Jean-François Piège, également, Pierre Hermé, tout ça.
Ah oui.
Non, je connais du bon monde.
Joli casting, oui.
Ouais.
Étudiant, puisque vous parliez du football que vous regardez à la télévision, étudiant, comment faisait Michel Simès pour avoir des places gratuites et bien placées pour les matchs du PSG au Parc des Princes? Où il va toujours.
Volontaire, médecin volontaire.
Il leur donnait des ordonnances de cacheton.
Non.
Des ordonnances de cacheton.
Il organisait le dopage, quoi.
Il était étudiant. Il ne pouvait pas encore faire d'ordonnances.
Okay. J'étais externe, même.
Il était brancardier de
violence.
Il se déguisait en pompier.
Non, il était dans la tribune, bien assis.
Il leur apportait des bières.
Non.
Il se faisait passer pour.
Dans la tribune, bien assis.
Vous n'êtes pas allé dans un stade depuis longtemps.
Attends, il se faisait passer pour quelqu'un qui n'était pas, qui avait des connexions avec un joueur ou avec un patron du club.
Il se faisait passer pour quelqu'un qui n'était pas. Qui?
Sarkozy.
Pour un métier qu'il ne faisait pas.
Journaliste, garde de presse.
Exactement.
Je croyais que vous alliez dire animateur. Parce que vous n'arrêtez pas de dire que je ne suis pas animateur. Donc
vous n'êtes pas animateur, je le maintiens. Vous étiez passé pour un journaliste. Avec quoi? Une fausse carte de presse, carrément?
Oui, j'ai fait une fausse carte de presse. En fait, j'étais dans un club photo. Et dans les clubs photo, ils font des cartes de presse barrées bleu, blanc, rouge, avec votre photo et tout. Et à l'époque, alors aujourd'hui, vous faites ça, vous approchez même pas dans le 16e. Mais à l'époque, je rentrais avec un appareil photo.
On va dire dans le 16e, il faut préciser que le Parc des Princes se trouve dans le 16e arrondissement de Paris.
Et j'ai rentré avec un appareil photo en bandoulière, avec un sac photo, avec la gueule vraiment très très assurée.
Avec beaucoup d'assurance, c'est ça.
Beaucoup d'assurance. J'arrivais, je prenais un billet pas cher en virage, et puis je passais tous les barrages en montrant ma carte de presse très vite, mon appareil photo, et je passais tous les barrages jusqu'à la tribune de presse.
Je suis pressé, j'ai pas le temps, il faut
genre,
que j'aille.
Genre, bonjour, je vais vers la carte de presse, je suis allé faire des photos en virage.
C'est génial.
Et j'arrivais, je me mettais à côté des, je sais pas si vous vous souvenez, du miroir du football, des journalistes du miroir du football à l'époque. Et j'étais en tribune de presse pendant tous les matchs. Non, c'était bien. Et puis après, quand j'ai été
jamais fait gauler.
Ouais, jamais. Et après, quand j'ai été étudiant en médecine pour assister au match du Parc des Princes, j'ai pris le stage du SAMU de Necker parce que c'est eux qui assuraient les gardes au Parc des Princes. Donc j'allais assister au match en blouse. En fait, je me suis toujours démerdé pour aller au Parc des Princes depuis que j'étais gamin.
Allez, dernière question concernant Michel Simès. Après, nous allons reparler de ce livre Quand ça va, quand ça va pas, publié chez Glénat Jeunesse. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour Michel Simès lors de son ascension du Mont Blanc? C'était quand d'ailleurs l'ascension du Mont Blanc?
Il y a 7 ans.
D'accord.
Respirer.
C'est pas la respiration, c'est
pas le sommeil.
L'alimentation,
l'alimentation, le vertige, l'oreille interne, tout ça.
Ah ouais.
Je suis allé avec Adriana, pour les pouvoirs extraordinaires du corps humain. En fait, c'est. Alors, on parle pas de vertige, on parle de peur du vide. Mm-hmm. Et en fait, j'ai la peur du vide. Et
vraiment, quand on est dans.
Pourtant, t'es venu dans cette émission.
Quand on est.
Elle est bien.
Quand on est à la montagne, on est sur le sol, on n'est pas.
La
peur du vide en parachute ou...
Non, quand vous arrivez à l'aiguille et que vous descendez sur une crête où il y a du gaz à droite et à gauche, pour ceux qui l'ont fait avec une corde, et puis vous descendez...
Donc là, c'est la peur de tomber.
Ah oui, c'est
vous
la peur
vous
du
avez
vide.
Les pieds au sol.
Oui, j'ai les pieds au sol.
Vous avez déjà fait du parachutisme ou
de... Oui, j'ai fait deux fois, j'ai fait 3 sauts en parachute. Bah alors, j'ai
là, on n'a pas peur
mourir.
Du vide, là.
Bah si,
là,
j'étais vert. Je l'ai fait pour. Parce qu'il fallait
que
je
passe.
Je l'ai fait une fois pour la télé avec Adriana, en sautant en plus d'un hélicoptère. Donc vous n'avez même pas la parabole qui vous permet de descendre un peu moins vite. Là, c'est comme une pierre. Et je l'ai fait parce qu'on m'avait on m'avait offert ça pour mon anniversaire. Mais j'ai une peur dingue du vide. D'ailleurs, à chaque émission, dans Les pouvoirs extraordinaires du corps humain, ils se démerdent pour me mettre dans un endroit où il y a du vide.
Faut voir le film Nous vieillirons ensemble de Guillaume Canet, on va le recevoir bientôt pour parler du film. Dans la bande-annonce, on le voit, Laurent Lafitte qui fait un saut en parachute et qui commence à amorcer la descente et qui s'évanouit. Donc j'ai l'image de Michel.
La sortie de l'avion.
Non, c'est terrible, c'est vraiment... Non, c'est un gros stress.
Qui est impossible à maîtriser. Est-ce que l'hypnose... Question pour un docteur. Est-ce que l'hypnose, l'acupuncture, que sais-je moi, l'homéopathie ou autre...
Non, mais
c'est médecine, mais je fais exprès. Est-ce que non, mais ça se soigne le vertige, le mal?
Je pense que l'hypnose ou de la thérapie comportementale, c'est-à-dire le fait de vous mettre en situation régulièrement et progressivement, devrait pouvoir faire disparaître la peur du vide. Oui, vous mettez dans une situation virtuelle avec des lunettes virtuelles aujourd'hui, ou progressivement vous le faites. Je l'ai fait dans une émission aussi, et je pense que ça soulage un petit peu.
Alors moi j'ai fait un truc comme ça avec des lunettes virtuelles, j'ai eu le mal de mer. Enfin,
ouais. Alors ça, les jeux vidéo aujourd'hui, ouais, avec ça, ça me file la gerbe, je peux pas le faire, mais c'est autre chose. Ça c'est une sensibilité de l'oreille interne, alors que la peur du vide est juste psychologique. C'est entièrement psychologique.
Mais donc vous avez le mal de mer aussi, le mal des transports,
mais là encore c'est l'oreille interne qui n'a rien à voir avec la peur du vide. La peur du vide, c'est le cerveau, c'est la psy.
D'accord.
C'est psychologique. Alors que tout ce qui est vertige vrai, c'est ou le mal de mer, tout ça, c'est une sensibilité de l'oreille interne.
On peut changer de question, j'avais dit vomir.
Parlons du corps.
Vous êtes hémétophobe.
Corps expliqué aux enfants et aux parents, donc chez Glénat Jeunesse. En fait, parallèlement, et vous l'expliquez en ouverture du livre, c'est aussi bien des questions que vous posez votre propre fils et aussi Maureen Dor qui vous a proposé ce projet, et les deux se sont retrouvés.
C'est un hasard dingue.
Bonne collusion.
C'est-à-dire que mon petit qui avait à l'époque 6 ans, un jour, je rentre à la maison, il me dit: papa, j'aurais que tu m'expliques comment fonctionne le cœur. Donc je prends un papier, je lui explique à gauche.
L'explication dans le livre, elle est dingue quand même.
Ouais.
Vous dites, quand le cœur bat, on est en vie. Quand il arrête de battre, on est mort.
Oui.
C'est quand
même...
Mais il faut le dire à un enfant.
Donc je lui ai fait un crowbar à gauche avec le cœur qui fonctionne, et puis à droite quand ça va pas. Quand ça va à gauche, quand ça va pas à droite. Et tous les soirs, il me demandait un autre truc, comment ça marche l'œil, comment ça marche le... Et je faisais les petits crobards et je lui expliquais. C'est inutile de vous dire qu'il veut devenir médecin maintenant. Mais voilà. Et Maureen, que je connais, que vous connaissez, Maureen Dor, qui est éditeur de la jeunesse, vient me voir, elle me dit: Michel, j'aimerais bien qu'on travaille sur un bouquin pour les enfants. Je lui ai sorti les crobards, je lui ai dit: ton bouquin, il est là. Et on a fini par se voir tous les matins régulièrement. On faisait deux, trois, je faisais les crobards.
Sauf que là maintenant, c'est Laure Monloubou qui fait les illustrations.
Non, mais les crobards, moi je lui donnais, et elle m'enregistrait mes commentaires, et ensuite elle les passait à une illustratrice.
D'accord.
Après, on a choisi illustratrice ensemble. Et ça, alors vous savez, quand dans l'édition jeunesse, que je ne savais pas, un succès, c'est à partir de 5000 exemplaires.
Oui.
On en est à 40 000 exemplaires aujourd'hui. 40 000, c'est un truc de dingue. Et Glénat, qui a repris ce bouquin, le republie aujourd'hui, avec en plus un poster à l'intérieur. Et puis, je ne sais pas si vous allez m'en parler, un petit truc autour de la ZZ.
Une nouvelle édition augmentée, entre guillemets. Il y avait des choses qui manquaient. Ça a été ajouté.
C'est des choses qui manquaient.
Alors, il manquait un clitoris pour quelqu'un qui veut être gynécologue.
Non,
franchement,
il manquait plus qu'un clitoris.
Il y a eu une grosse polémique à la sortie. Alors la presse en est emparée, bien évidemment, parce que c'était rigolo.
Dès qu'on peut faire une polémique sur vous.
Etc. Il y avait le hashtag Ralatouf, pour dire que c'est une association quand même assez classe.
Sérieuse.
Qui sont des sortes d'ayatollahs du féminisme ou de la parité, etc. Qui ont envoyé une lettre. Je veux juste vous lire, parce que en fait, l'idée, c'est que dans mon bouquin,
j'explique le
point de départ, c'est qu'il y avait le petit garçon qui avait un zizi, et puis la petite fille qui avait une zézette sur une autre page. Il se trouve que je me disais, bon, le petit garçon, on va décrire tout ce qui apparaît anatomiquement, tout ce qu'il voit.
Donc scrotum, testicule, gland, prépuce. Ça, c'est les quatre éléments pour le garçon.
Je crois que vous connaissez bien votre anatomie masculine.
Bah oui, mais je suis allée voir
Et au moment où je travaille avec Maureen sur la petite fille, je me dis, bon, est-ce qu'il faut aller chercher les grandes lèvres, la vulve, le clitoris pour des petites filles de 6-7 ans? J'étais pas sûr, donc on n'est pas allé. Mais c'était pas parce que je voulais, parce que j'étais
caché ou dire que ça n'existait pas ou le mépriser.
Je me suis fait incendier avec une pétition dont on dit nous observons que la page des explications pour les zizi fait 11 lignes alors que la page des zézettes fait 5 lignes, un sous-produit en quelque sorte. Et autre polémique, vous remarquerez que dans la page zizi, c'est un petit garçon un peu noir qui a le zizi un peu dur, parce que j'explique pourquoi les petits garçons ont le zizi un peu dur, et j'ai bien sûr été traité. Je passe pas sur le racisme du petit garçon sexualisé.
Ridicule,
alors, ça. Je veux dire, il y a un moment, alors je les ai envoyés balader, inutile de vous dire, et puis il y a une dame qui nous a écrit, qui a repris les schémas et qui nous a dit, cher docteur, voilà, je pense que vous auriez pu détailler un petit peu plus l'anatomie de la petite fille. Elle m'a fait le schéma avec ce qu'elle aurait aimé voir. Elle m'a parlé gentiment. Son schéma est aujourd'hui dans la nouvelle édition.
Bah,
et je reconnais mon erreur de l'époque en disant j'aurais dû faire plus. Mais m'insulter pour ça, me traiter de sexiste et de raciste, il y a un moment quand même.
C'est quand même bien.
Non, mais en effet, c'est vachement bien d'avoir fait cette version augmentée et de dire qu'en effet, il faut détailler pour les filles parce que ça passe aussi. Ce que j'entends, moi, et sans me raccrocher à aucun mouvement, mais en tant que femme et en tant que peut-être future maman ou personne qui a des enfants autour d'elle, c'est de se dire c'est important de nommer les choses parce qu'en ne les nommant pas, on considère qu'on est moins important et on sait qu'aujourd'hui à quel point ce travail il se fait dès l'enfance.
Bien évidemment.
Et comme c'est un livre pour enfants, c'est important.
Mais surtout, quand on connaît le combat aussi contre l'excision qui arrive aussi.
Et rien ne justifie en revanche
encore
les insultes.
Et qu'on sait qu'aujourd'hui les jeunes filles, c'est terrible, les adolescentes connaissent très mal leur corps.
Bien sûr.
Quand vous demandez de parler du clitoris à des adolescentes.
Parce qu'on n'en parle jamais, Michel.
Bien sûr.
Mais vous
bien
avez
sûr.
Même expliqué dans une très bonne émission de télévision qu'on a eu la chance de présenter ensemble que tout le plaisir féminin était autour du clitoris.
Et qu'il n'y a pas de femmes vaginales et de femmes clitoridiennes.
Voilà.
Tout le clitoris c'est pas juste le petit bouton qui dépasse,
ce sont les terminaisons nerveuses.
Dans les grandes lèvres, il y a le clitoris qui va
doucement, je prends des notes.
Dans la vulve plutôt, il y a deux gros boudins sur les côtés.
Voilà. Mais c'est quand même fou, on parlait de génération tout à l'heure avec Agnès par rapport au vaccin, mais c'est-à-dire qu'à l'école
on
nous a jamais appris ça, ce qui sous-tend quand même que le plaisir féminin c'est un truc qui est caché, qui est une sorte.
Est-ce que c'est pas
ça relève du mystère d'Éleusis, quoi.
C'est pas de la pudeur.
On n'a pas de pudeur avec les garçons. Pourquoi est-ce qu'on aurait de la pudeur avec les filles? C'est parce qu'on le sait historiquement aussi avec la domination masculine longtemps. Parce que longtemps c'est des postes occupés par. Non mais tout s'explique.
C'est comme aussi. Il y a quand même une gêne.
Pourquoi il y a de la gêne pour la masturbation féminine plus que pour le masculin?
Parce que c'est la même gêne qui peut y avoir aussi dans les publicités pour les tampons ou les serviettes hygiéniques où on présente le sang, il est bleu, celui il est pas rouge. On dit pas le mot règle.
Mais il n'y a pas de gêne chez les gens.
Hygiène intime, enfin voilà.
C'est un problème. C'est un vrai problème.
C'est le principe de la même chose. Elles ont raison. Ça va changer, c'est en train de changer, mais la gêne, c'est pas nous, la gêne.
Et l'influence du vegan joue beaucoup là-dedans.
Il y a aussi quelque chose d'important, c'est chez un petit garçon, tout se voit, alors que chez une petite fille, tout est caché. Et donc, effectivement, un petit garçon qui a une érection, le voit qu'il a une érection. Ça se voit. Alors qu'une petite fille, si elle ne va pas explorer son anatomie, elle ne va pas savoir qu'il y a un trou, qu'il y a une vulve. D'ailleurs, on m'a reproché ça aussi. On m'a dit, oui, alors pour vous, le vagin, c'est un trou. Enfin, un truc de fou, quoi. Donc, mais si la petite fille, la jeune fille ne s'explore pas elle-même, elle ne voit pas ses organes génitaux et les organes du plaisir.
Et pour ça, il faut enlever la pudeur et dire, il n'y a pas de problème à explorer, il n'y a pas de problème à aller voir.
Et surtout, c'est l'intelligence aussi et l'utilité de ce livre illustré qui explique bien comment le corps est fait. Alors, tout ne tourne pas autour du sexe, puisque c'est pas la vie. Je rappelle du docteur Simès dans ce livre, mais il y a également.
Je connais mon anatomie en tout cas.
Les yeux. Ah, on m'a dit tu continues encore d'en trouver d'autres.
Profondeurs.
Les zones électrogènes,
Voilà. Il y a également les cheveux, les yeux, le nombre de cheveux que l'on a, les yeux, les oreilles, le nez, la bouche, la gorge, la digestion. La main, les pieds, le cerveau, la peau, les os, la douleur, les températures,
l'anesthésie.
Ce qui est bien, c'est que on découvre aussi le quand ça va pas. C'est-à-dire expliquer de comment le corps est fait, ça on l'a entendu. Mais par exemple, vous expliquez comment dès l'instant où la gorge pique, dès l'instant où le nez coule, la couleur des glaires, de savoir s'il suffit simplement de faire un petit pchit d'eau de mer ou est-ce qu'il faut commencer à aller voir le docteur. Parce qu'il y a beaucoup, et je trouve ça très intelligent aussi, il y a beaucoup de moments, de mots que vous expliquez en disant commencez déjà par faire ça. C'est systématiquement, vous ne poussez pas les gens à aller chez le docteur pour rien.
Et puis je et voulais aussi
des soins immédiats.
Voilà, et je voulais aussi, parce que j'ai vécu ça moi dans mon expérience d'ORL, quand un enfant vient vous voir et qu'il a mal à l'oreille, il ne voit pas ce que vous faites, puisque vous allez lui regarder l'oreille, alors que forcément, il a le visage tourné ailleurs. Et vous allez lui mettre quelque chose dans l'oreille, un otoscope, parce qu'il faut mettre de la lumière, parce qu'il fait nuit dans l'oreille. juste expliquer ça à un enfant, lui dire qu'est-ce qu'il va faire le docteur. Eh ben, il va te mettre une petite lumière dans l'oreille parce qu'il fait nuit et qu'il veut aller voir pourquoi tu as mal. Ce qui fait que quand le gamin, vous lui mettrez l'otoscope dans l'oreille, il saura pourquoi.
Il n'aura pas peur.
Et il n'aura pas confiance. Peur, il vous laissera l'examiner et il comprendra pourquoi.
Est-ce que vous êtes formé à ça en tant que médecin? Parce que c'est la question qu'on pose souvent par rapport au corps médical. C'est-à-dire que vous êtes forcément, vous avez fait des grandes, grandes études, vous êtes très compétent dans ce que vous faites, mais parler à un patient, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans un livre.
Non, on l'apprend pas. On l'apprend avec le tas et sur le tas, je sais
avec le tas,
vous savez, avec l'état. pas de vous si vous venez me voir en consultation,
ouais, non,
Leïla.
Mais c'est fini.
Mais on apprend. D'ailleurs, on l'apprend tellement pas qu'on est souvent maladroit. Moi, j'ai eu des problèmes. Je me souviens, j'ai eu des maladresses, j'ai eu des moments où j'ai pas trouvé les mots, j'ai pas eu assez d'empathie. L'empathie, ça s'apprend. Et que un bon médecin est un médecin empathique. Et que ça, vous l'apprenez pas parce qu'au début de votre carrière, vous êtes stressé. Les gens, attendent de vous beaucoup de choses. Vous avez des vies
entre
vos mains.
Et on a peu de temps aussi, généralement. On a le sentiment que le docteur on est 15 ans à la salle d'attente et qu'il faut aller vite.
Mais même quand vous avez le temps, on vous a appris. J'ai fait 12 ans d'études, 12 ans de bachotage, 12 ans où j'ai fait rentrer dans mon cerveau tout ce qui peut aider à soigner les gens. Mais la psychologie, l'abord du patient, vous l'apprenez au contact des patients. Vous pouvez pas l'apprendre sur les bouquins.
Surtout quand il faut annoncer des choses terribles.
Et quand il faut on m'a jamais appris, moi, alors peut-être qu'aujourd'hui ça change, mais on m'a jamais appris à annoncer un cancer à quelqu'un. Ouais. Je l'ai appris, moi, en le faisant, en l'annonçant, en essayant de trouver les mots, en essayant de trouver l'empathie nécessaire pour l'annoncer.
C'est pas que pour les enfants, ce livre. Hein. C'est pour les adultes, évidemment pour les parents, parce que ça les aidera également à...
C'est un support.
À entamer la discussion et puis à laisser traîner aussi pour que le gamin puisse lui-même formuler ses propres questions et interroger.
Daniel conteste le nombre de cheveux. Entre 100 et 150 000, c'est dégueulasse.
Je parle des gens normaux, là.
Maréchal Ganache, c'est un succès annoncé encore, ce livre. C'est déjà un succès.
Bien sûr, eu égard au talent tant médicaux que pédagogiques du docteur Sim.
Non, Simes.
Ah oui, non, Sim, que je sache, Nagui.
Oui.
Y-M-E-S, à la fin d'un nom propre ou commun. Ça se prononce « me ». Quand vous parlez de moi, dans mon dos, évidemment.
Maréchal Ganache.
Vous dites, oui, Ganache, il fait partie des vieillards kakoshim, pas des vieillards kakoshimes. Et vous, quand vous cherchez à enrichir votre vocabulaire, parfois limité, vous avez recours à des synonymes, pas des synonymes. Bien. Bref, vu les talents de Monsieur Sim, il est évident que ce livre, très joliment illustré par Laure Monloubou, va connaître un vif succès. Un livre, d'ailleurs, Nagui, dont vous devriez prendre de la graine.
Ah bon?
Oui, car il pose des questions aussi concises que pertinentes. Ceci dit, je dois reconnaître, mon cher Nagui, qu'il vous arrive parfois de poser des questions claires et simples, comme celle que vous avez lancée tout à l'heure à GNB, notre rédac-chef, juste avant l'émission, quand il vous a annoncé que Michel Sim était l'invité de la bande originale. Quoi? Encore lui? Mais, ô maître suprême, Michel Simès est l'animateur préféré des frères... Aïe! Oh, mal! Oh, oh. Maintenant, j'ai une bosse. Mais grâce à Michel Simès, je sais pourquoi. Au chapitre Le cerveau, il explique très bien. Je le lis. Si tu as une bosse, c'est parce qu'un petit vaisseau sanguin situé entre le crâne et la peau a éclaté quand tu t'es... cogner la tête.
Ça.
Ok, fais entrer Simès avant que je te recogne ta tête de mulet. Voilà, cher docteur Sim, comment se prépare la bande originale dans la violence, le mépris pour
Il le sait, hein, il a travaillé ici.
Le mépris pour les médecins ORL et la jalousie narcissique. Mais moi, je tiens à vous dire que malgré mon âge, je me retrouve complètement dans les observations faites dans votre livre par les moutards. Je lis.
Les enfants,
j'ai mal aux oreilles et j'entends pas bien. Moi aussi. Je siffle en respirant, je tousse et je crache des glaires. Moi aussi. Alors, docteur Sim, j'ai surtout été très intéressé par les pages consacrées à la digestion. Et comme vous expliquez très bien le processus du fondement jusqu'à son terme, il va falloir que je vous consulte pour un problème lié à une mutilation aussi intime que douloureuse que m'infligèrent les Viettes. C'était en 1954. Mais comme cela m'empêche de rester assis plus de 3 minutes d'affilée, je prendrai rendez-vous plus tard.
Bonne émission. Merci.
Merci à
France Inter. Nagui La bande originale.
Quand ça va sur la page de gauche, quand ça va pas sur la page de droite, avec les commentaires, les explications, pour savoir ce que fait le docteur justement, ces gestes-là pour ne pas inquiéter l'enfant, qu'il le sache et qu'à la limite, il trouve tout normal, peut-être pas comme un amusement, mais en tout cas que le comportement du docteur soit déjà annoncé, expliqué d'une manière ludique, pour qu'il y aille en étant tranquille et sans la petite... allez, la gorge serrée,
c'est
peur,
pas plus rapide
peur de la piqûre,
ouais. De l'attacher.
Si, mais ça n'empêche pas de crier là, pour les oreilles.
Ah, c'est... Non, je comprends.
Dans la même collection, il y a également quand ça va pas avec l'alimentation.
Oui, j'ai vu, avec Thierry Marx qui vient de sortir. Ouais.
Exactement.
Et en plus, celui-là, il a été traduit en plusieurs langues, en chinois et tout. C'est assez rigolo de voir arriver. J'ai filé ça à mon fils, qui est à l'origine du bouquin. Il est assez fier.
Nouvelle édition avec un quiz et un poster en plus. Quiz ou pas, j'ai l'impression qu'elle est joueuse aujourd'hui. Voici Agnès Hurster.
Bonjour, une chronique namasté aujourd'hui parce que ça fait longtemps et qu'on en a bien besoin. Je vous ai apporté mon livre préféré, Le Grand Dictionnaire des Malaises et des Maladies. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est ma passion dans
pas
la vie.
Tout.
C'est de la merde, c'est génial. C'est une approche métaphysique des douleurs physiques avec une technique de méditation par l'amour pour soigner la source des conflits.
Je sens qu'il n'aime pas le bouquin.
Voilà. Il y a déjà trop de miel dans ma précédente phrase. je sais que j'ai perdu déjà tous les auditeurs fans d'Emmanuel Barré, ceux qui sont très 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 méchants sur ma page YouTube. Wake up, guys, on est en 2019. Donc l'idée, c'est de prononcer chaque paragraphe de vos mots en monosyllabes pour traiter le mal. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez cette première scène dans un film de Mai Wen, dans Mon Roi. Elle se fait les ligaments croisés et la dame la regarde et lui dit « genou ». Bon, il y a rien qui me fait plus rire au monde. Et ben là c'est pareil. Donc c'est écrit par un génie, Jacques Martel. C'est un best-seller, Jacques Martel. C'est comme Jacques Martin, sauf que lui son dada c'est les cancers et pas les enfants. Donc c'est un garçon avec qui je sortais qui me l'a offert il y a longtemps pour Noël. C'est vous dire le niveau de légèreté de la relation dans laquelle on était. Le soir on se couchait et on se lisait le dictionnaire.
C'est énorme en plus.
Le dictionnaire,
oui, il est énorme. Par exemple, tu as le nez qui coule, ça veut dire que tu rentres trop tes émotions. Tu as mal à la gorge, quelque chose veut sortir, un secret.
Quoi.
Tu as une migraine, migre, haine, la haine. Tu vois ce que je veux dire? C'est extraordinaire. Alors j'ai quand même fait 9 ans de thérapie, mais je dirais pas que ça va mieux, mais ça va autrement. Enfin, bon, bref. Donc j'ai regardé tout à l'heure un peu pour vous. Je vous propose aujourd'hui qu'on on voit un peu ce que chacun a, un petit jeu qui a quoi. Je préviens avant de démarrer que ce monsieur est électricien.
C'est vrai
ce qui est un gage de qualité.
Non,
je te jure, voilà.
C'est scientifique, ça.
C'est un génie, Jacques Martel. Voilà. Donc, par exemple, la calvitie.
Pour qui?
Pour Daniel.
C'est qu'il y a un problème avec le divin en toi. Tu vis un calvaire, calvitie calvaire. La cellulite.
Non, mais
c'est
le mec, c'est Raymond DeVos, en fait. Il fait des jeux.
Non, mais c'est extraordinaire. C'est vraiment très drôle.
Par exemple, après, d'une amie qui est allée voir une psychiatre, parce que son gamin qui avait 8 ans avait volé 3 bonbons, un truc comme ça. Et donc elle va la voir en disant, j'espère que c'est pas, voilà, je suis un peu embêté, il a volé. Et la psy lui, psychiatre, dit à sa mère, mais et vous faites quoi comme métier? Elle dit, je suis hôtesse de l'air. Mais il fait comme vous, il vole.
Non.
Je vous assure.
Mais si, mais moi j'ai connu ça. J'ai des exemples.
Non, véridique.
J'ai les droits d'auteur sur ma chronique, mais du coup, je rebondis. Mauvaise haleine, en fonction du voisin.
C'est pour Albert ou pour Michel?
C'est pour moi.
C'est quand les idées anciennes stagnent, Michel. Il est important que je communique avec les personnes concernées afin de leur faire part de mes émotions et de me débarrasser de ma mauvaise haleine. Cette dernière est souvent liée à des pensées de médisance, de dégoût, de haine, de vengeance. Je résiste très fortement et le poison que je produis s'extériorise dans une odeur nauséabonde. Quelque chose est en train de pourrir à l'intérieur de moi. La méthode de méditation par l'amour. Il est bon de se souvenir, Michel, que l'amour et l'honnêteté seront les ingrédients de base de mes pensées et qu'alors mon haleine redeviendra fraîche. Ensuite, je propose, parce qu'on en a parlé tout à l'heure avec Albert, des hémorroïdes. Les hémorroïdes...
Non, on n'en a pas parlé, il les a évoqués sans les citer.
Voilà. Donc, étant donné que les hémorroïdes peuvent survenir dans des cas de constipation ou de grossesse, Albert, il faut d'abord vérifier si je ne vis pas une des deux situations, car ce n'est pas la même chose d'être constipé ou enceinte. Lorsqu'il y a de la douleur, c'est que c'est lié au stress. Lorsqu'il y a des saignements, c'est que c'est lié à une perte de joie. Et attention, souvent les hémorroïdes apparaissent lorsque je vis une difficulté avec ma maman. Ah. Un deuil non fait, un désir de ne pas la voir partir. Les hémorroïdes m'indiquent un désir intérieur de forcer l'élimination.
Voilà, c'est que des personnes achètent ça en croyant. Alors moi j'ai mal au dos de temps en temps.
Alors t'as mal au dos et t'as mal à la dorsale numéro 3, d'après ce que tu m'as dit, c'est un rapport à la colère, au cœur et je ne trouve plus la page.
Oh, mais c'est dommage.
Chaque dorsale est exprime un truc différent, émotionnel.
D'accord.
Je peux être figée, rigide dans ma façon de parler aux gens. Je peux même devenir colérique.
Ah, c'est
la tristesse peut m'envahir.
Jamais ça, par contre.
Bon, bref, après, j'ai 12 pages, c'est extraordinaire.
Oublie, 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 oublie.
Tout à l'heure, tu m'as parlé aussi de torsion de testicules, Albert. Torsion de testicules.
Torsion de testicules.
Mais quel moment t'as parlé de ça, Albert.
Ouais, tu à sais, la pause, à la, si tu avant l'émission.
Ça, moi, j'ai été soft.
Survient, la torsion testicule survient de façon brutale lorsque je prends conscience que je me suis forgé une image fausse de mon père. C'est extraordinaire. Non, mais c'est extraordinaire. Voilà, l'intolérance au gluten, c'est quand les gens viennent dans ma bulle et qu'ils me collent à la peau et que je me laisse envahir.
T'as bien fait de quitter le mec qui te l'a offert, en tout cas.
Ouais, n'est-ce pas?
C'est un humoriste.
Non. Alors, voilà.
T'es paumé.
Ouais.
Moi, je
peux faire une heure là-dessus. Voilà.
Je peux le voir le bouquin parce que je.
Ouais, bien sûr. Et donc, voilà, j'ai écrit cette chronique en collaboration avec Michel Simès.
Namasté.
Namasté. Bonne semaine.
La bande originale, Nagui, sur France Inter.
La bande originale et la musique dans la vie de Michel Simès, qui est notre invité, qui signe, je le rappelle, quand ça va pas, le corps expliqué aux enfants et aux parents, chez Glénat Jeunesse, en musique donc. Michel écoutait dans les années, fin des années 70, Plastique Bertrand.
Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi.
Réentendez cette chanson, ça, vous avez quoi comme image, Michel ?
J'ai l'image que j'ai mon bac, j'ai l'image qu'en 77, je réussis ma première année de médecine, et ça plane pour moi.
Vraiment, au sens propre du terme.
Est-ce que c'est c'était... vrai que vous avez été repêché, Michel ? Alors,
oui.
Moi, dans ce que j'ai trouvé, c'est que vous avez été recalé pour cette première année, mais cette
en
année,
fait,
coup de chance, ouais. Simone Veil, qui était alors ministre de la Santé, rajoute 11 admis sur cette
en fait, ce
fameuse liste.
Ouais, voilà, il y a un numerus clausus, vous savez, il y avait alors je crois qu'il y avait 1100 candidats, il y avait 110 places, que 10%. Et en fait, moi j'ai été 11e recalé. Donc j'étais 121e, un truc comme ça. Et en fait, il y a un quota d'étrangers qui sont reçus en deuxième année et ils en avaient mis 11 de plus. Et le père d'un des recalés était avocat, il est allé voir à la fac de médecine, il leur a dit « Attends, excusez-moi, mais il y a 11 étrangers de plus, il s'agit pas de les virer, mais vous rajoutez 11 places pour les Français ». Et j'étais 11e recalé, donc je suis devenu dernier accepté, admis. Voilà. Donc je suis médecin aujourd'hui grâce à Simone Veil.
Et aux étrangers.
Quand il y a une étoile qui protège, elle protège. Ouais. C'est joli.
Et aux étrangers en France aussi. C'est ça qui est
bien. Ouais, mais voilà. Et en plus, on m'a pas viré les types, on les a gardés et ce sont des médecins.
1984, vous écoutiez. Qu'est-ce qui s'est passé?
84, je suis interne.
Ouais.
Je suis interne à Chartres et je fais ma première opération chirurgicale tout seul.
Vraiment?
Ouais.
Vous avez opéré
vraiment,
quoi?
Vraiment. J'opérais.
Un ORL opère?
D'abord, un ORL opère.
Oui,
bien sûr. Un ORL opère. Enfin, il peut opérer s'il est chirurgien ORL, oui. Quand vous enlevez les amygdales, il faut bien que ce soit un ORL qui le fasse.
D'accord.
Parce que pour répondre, c'est vrai que l'ORL, c'est les bouchons de cire, quoi.
Non, heureusement qu'on fait autre chose.
Non, mais je sais bien, mais bon, non, métier, quoi.
Non,
mais
ORL, c'est
voilà, c'est ça.
C'est négorge-oreille, et on opère les larynx, les cordes vocales, les nez, etc., les oreilles. Et en fait, c'était ma première intervention, et c'était une appendicite, parce que souvent, les jeunes chirurgiens. Et quand vous faites. Non, j'étais pas ORL encore, j'étais jeune interne, et quand vous devez avoir une spécialité, vous commencez toujours par la chirurgie générale pour vous former au maniement du bistouri. Voilà.
Et c'est des souvenirs d'internat, vous en aviez déjà parlé dans cette émission, parce que c'était
une période extraordinaire.
C'est assez joyeux, j'imagine.
Ah, plus que joyeux, d'abord vous apprenez votre métier. Chartres, on était dans un petit hôpital et on était tous potes, enfin c'était extraordinaire. Et puis j'étais patron de l'internat de la salle de garde.
Vous étiez l'économe.
J'étais l'économe, le patron de la salle de garde, et je peux vous dire qu'il y a encore des souvenirs sur les murs.
Vous étiez tyran sur un trône aux accoudoirs en forme de phallus.
C'est ça,
pour vous donner l'image de
Michel Simès.
Non,
j'avais deux accoudoirs en forme de phallus et un phallus au-dessus de la tête. Quand je me levais, il fallait que je fasse gaffe.
Fin des années 80. On comprend mieux tellement de choses, mon Dieu. Fin des années 80, début des années 90.
On est là, une autre histoire.
C'est ringard un peu, non?
Non, c'est bien.
Ah non, mais moi je. Et je revendique
Gérard Blanc, une autre histoire.
Je revendique mon goût pour la variété française. Hein, y a pas de souci. Et pourquoi j'ai choisi cette chanson? Parce que j'ai mon diplôme de spécialiste d'ORL et que je commence une autre histoire parce que mes études s'arrêtent et que je commence ma vie professionnelle.
Et vous commencez aussi au début des années 90 à être chroniqueur santé.
Ouais. Ça aussi.
Commencez sur Europe 2, je crois.
Ouais. Europe 2, ensuite...
Comment on se retrouve à la radio quand on est docteur? C'est pas un chemin. Aujourd'hui, peut-être qu'on demanderait de plus en plus, justement, à des médecins, à des chefs de cuisine, à des professionnels, d'être chroniqueur, voilà. Mais comment être l'un des premiers, en tout cas, si ce n'est le premier?
J'habitais Paris, j'allais à Chartres tous les jours. J'écoutais la radio, c'était la naissance de France Info. Et je faisais, pour gagner ma vie, je faisais l'assistance médicale dans des rallyes, des choses comme ça. Et en écoutant France Info, j'avais enregistré les chroniques santé. J'avais chronométré. Et pendant mes gardes, quand j'avais un peu de temps, comme moi j'adore expliquer aux patients, j'avais écrit 3-4 chroniques que j'ai montré à un journaliste que j'ai rencontré sur un rallye dans le Sahara, qui m'a dit c'est bien. Et puis un jour il m'a dit tiens, il cherche quelqu'un à Europe 2. Moi j'avais fait, ce qui est très drôle aujourd'hui avec le recul, j'avais fait acte de candidature à Autoroute FM à l'époque. C'est le 107.7 aujourd'hui.
107,
et il m'avait dit que ça les intéressait pas. Donc je les salue. Mais bon, j'en veux pas, non, personne ne me connaissait à l'époque.
Au contraire, vous pouvez les remercier parce que peut-être que sans eux,
j'aurais pas eu la carrière, parce qu'après je suis à la France Info et Pascal Delannoy, le patron de France Info de l'époque, m'a donné ma chance.
En 2007, la musique de la liste de Schindler, parce que c'est l'année où vous vous rendez pour la première fois à Auschwitz.
Je me rends pour la première fois à Auschwitz et écoutez, c'est un voyage, vous voyez, même...
C'est émouvant, mais c'est bien d'en parler aussi, Michel.
Oui, c'est bien d'en parler, mais je sais pas pourquoi, j'arrive jamais à en parler sans émotion. Voilà. C'est un voyage...
Ça se comprend.
Pour quelques raisons.
C'est un voyage qui m'a bouleversé, encore aujourd'hui.
C'est la musique de Renaud Capuçon.
Et il y a un devoir
qui est joué par Renaud.
Ouais, il y a un devoir de mémoire aussi, parce qu'il ne faut pas que le temps vienne recouvrir tout ce qui s'est passé de son couvercle et qu'on passe à autre chose. Il faut garder présent à l'esprit.
Oui, un devoir de mémoire que j'ai essayé de faire avec Hippocrate aux Enfers sur les expériences médicales dans les camps de concentration. Mais
en se demandant comment les médecins qui sont faits pour soigner la vie et donner la vie, la mort et massacrer, au nom de l'expérience.
J'ai essayé d'apporter ma petite pierre à l'édifice de la mémoire. Et puis c'est vrai que ce premier...
C'est réussi parce que c'est marquant quand on voit ce doc, on sort pas indemne.
Et ce premier voyage à Auschwitz a été... incroyable, quoi. J'ai mis des mois à m'en remettre.
Ça a permis aussi de trouver une réponse à une question. C'est votre grand-père, savoir...
Mes deux grands-pères sont morts.
Vos deux grands-pères sont morts, mais je crois que vous avez pu avoir des informations sur l'un d'entre eux.
J'ai eu des informations. J'ai su, en allant là-bas à ce premier voyage, qu'il était mort un 4 septembre, officiellement du typhus, mais je pense qu'il a été exécuté parce qu'en allant là-bas, vous voyez une salle dans laquelle les Allemands, qui avaient très peur du typhus, faisait semblant d'examiner les patients et les exécutait d'une injection dans le cœur.
Le fait que vous avez attendu longtemps avant d'y aller, parce que on le voit, on l'entend et on le comprend, encore une fois, c'est chargé d'émotions et ce sont des douleurs présentes qui remontent, mais vous vous êtes dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce qu'il faut que j'y aille? Vous l'avez vécu comme un devoir, pour la mémoire de votre famille aussi?
Il y a un moment dans la vie, vous dites, tiens, il faut que je le fasse. Je peux pas vous expliquer d'où c'est venu.
De la paternité ?
Probablement de la paternité, et puis probablement qu'en vieillissant, vous vous dites, tiens, j'ai envie de savoir, j'ai envie d'aller voir. J'étais le seul, le premier semestre, à être allé à Auschwitz, sur les traces de mes grands-pères, mais je sais pas, vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup d'épigénétique, parce que la mémoire collective, finalement, j'ai pas vécu la Shoah, j'ai pas vécu, mes parents m'ont pas saoulé avec ça durant mon enfance. Il y a un moment, on dit que les gènes font ce que vous êtes, mais que c'est aussi que 30% de ce que vous êtes, et que c'est 70%
du vécu,
font que certains gènes vont s'allumer ou pas. Et je pense que la mémoire collective et le fait que que j'ai une souffrance par procuration finalement avec cette période. C'est lié au fait que j'ai des gènes qui ont été probablement transmis de génération en génération et qui chez moi se sont allumés alors que chez d'autres ils sont restés sur off et qui font. Ça explique à mon avis beaucoup de choses sur la mémoire collective et le fait qu'on puisse souffrir sans avoir vécu les choses.
Quand vous voyez dans l'actualité, quand vous entendez les informations avec des actes antisémites, avec des violations de cimetières, avec des tags, on parlait tout à l'heure de Simone Veil qui se retrouve aussi insultée avec des croix gammées, évidemment qu'on est tous écœurés par ces scènes-là, mais j'imagine que chez vous ça doit être x10, x1000.
Oui, je préfère imaginer que c'est un épiphénomène et que voilà et que tout ça va se calmer. Moi, ce qui m'a le plus choqué finalement, c'est ce type qui a dit un jour, on est ici chez nous. Voilà, on est tous ici chez nous, tous, quelles que soient nos origines. Et je suis chez moi autant que ce type qui a dit ces insanités, parce que voilà, mes grands-parents étaient de Pologne, mes parents sont nés en France, mon père est devenu français à l'âge de 7 ans, donc j'ai des origines d'Europe centrale, mais je suis ici chez moi comme ces types qui le disent et qui l'assènent à des gens dont ils pensent qu'ils ne sont pas d'ici.
Docteur Michel Simès qui signe avec les illustrations de Laure Montlouboule quand ça va, quand ça va pas. Leur corps expliqué aux enfants. J'aime bien la formule d'ailleurs, leur corps expliqué aux enfants et pas le corps expliqué aux enfants. C'est pour bien
c'est
comprendre.
Ouais, c'est le.
Ça résonne.
Et leur corps leur appartient. On leur répète sans arrêt. Et il appartient pas aux autres.
Et expliquer également aux parents qui ont souvent du mal justement à répondre à certaines questions posées par les enfants, tout ça chez Glénat Jeunesse. On a demandé à Marie Gossel, bonjour Marie.
Bonjour.
De venir à ce micro. Vous êtes chargée d'études et de recherche à l'Institut français de l'éducation. Je me demandais tout à l'heure, on se demande souvent d'ailleurs, qu'est-ce que l'on apprend à l'école dans les cours, que ce soit d'éducation sexuelle ou d'SVT, ou de comment on explique le corps aux enfants à l'école? Parce que les programmes évoluent, changent beaucoup, on a chacun en tête des écorchés aussi qui régnaient au fond de la classe.
Les programmes évoluent beaucoup, surtout ceux liés à l'éducation à la sexualité. Ouais. Alors, tout d'abord, dans les écoles élémentaires, effectivement, il y a une approche du corps qui va plutôt être tournée autour du mouvement, de la place du corps dans la salle avec les autres. On va essayer de nommer les parties du corps, par exemple, pour une première connaissance. Donc ça, c'est au niveau vraiment tout petit, la maternelle. Et puis ensuite, au primaire...
Pour qu'ils prennent conscience, parce que c'est vrai qu'un enfant, quand il fait ses premiers dessins, c'est plutôt patate, quoi. C'est plutôt un rond, et puis au fur et à mesure, il découvre les bras, les jambes, les doigts.
Mais c'est important, comme on le voit dans le livre de Michel Simès, justement, de nommer les choses des tout petits. On leur explique pourquoi ça leur fait mal, pourquoi ça va pas, pourquoi leur corps leur appartient effectivement, pourquoi l'hygiène c'est important, pourquoi, etc. Donc ça, c'est vraiment.
L'hygiène c'est important, y compris la manière. Non, mais.
Oui, oui, bien sûr.
Le détail, je ne sais pas si beaucoup de professeurs le font, la manière pour les petites filles de s'essuyer pour éviter d'avoir des infections. Urinaire.
Les médecins effectivement qui déjà expliquent aux parents. Enfin, je veux dire, quand on sort de la maternité, en général, les infirmières et les infirmiers expliquent aux mamans et aux papas comment s'occuper du sexe de leur enfant, parce que c'est très sensible.
Toujours de devant vers l'arrière et pas l'inverse pour ne pas apporter des microbes des infections urinaires.
Donc il y a cette hygiène là vraiment liée aux organes sexuels, mais il y a aussi l'hygiène de se laver les mains ou la façon de parler aux autres, de s'exprimer ensemble dans une petite communauté qu'est la classe. Donc ça, c'est vraiment très important en termes de relations. Et puis ensuite, au fur et à mesure que la scolarité évolue, donc on a plutôt des... on explique le corps physiologique de façon de plus en plus poussée au fur et à mesure que la scolarité avance, mais on aborde peu finalement tout ce qui est en fait les relations plutôt psychosociales, ce qu'on appelle, ou psychoaffectives, qui va être par exemple l'estime de soi, l'image de son corps, l'image dans la façon dont les autres perçoivent le corps, parce qu'en fait les personnalités se construisent un petit peu aussi comme ça, c'est-à-dire qu'est-ce que les autres vont penser de moi, quelle est l'image que je transmets.
Les différences de cheveux raides, frisés, bouclés ou pas.
Voilà, donc ça c'est important.
Le poids, de taille.
La couleur de la peau aussi, tout ça est expliqué d'ailleurs dans la bande dessinée, le livre illustré, pardon.
Et bien montrer qu'il existe toutes ces différences et que tout est normal, il n'y a pas de problème. Et qu'il n'y a pas... Alors c'est vrai que dans notre société, il y a toujours l'image d'un corps assez idéalisé, qui est... voilà, qui est monté au nu, qui est un peu exalté. Et puis, ben, tous les gens qui correspondent pas à cette image, moi, je ressemble pas à ça. Donc, qu'est-ce qu'il en est finalement? Est-ce que je suis normal? Est-ce que je suis moins bien que les autres? C'est toujours la même question.
Ouais, toujours.
Donc, ça touche beaucoup à l'affectif. Et puis, et enfin, un autre aspect aussi très important de l'éducation au corps et à la sexualité, c'est ce côté, le rapport, par exemple, fille-garçon, donc on l'a vu tout à l'heure, en plus avec l'image des personnes qui regrettaient qu'il n'y avait pas qu'une page sur la sexualité des petites filles. Et cette image, ces différences fille-garçon, c'est quelque chose qui intéresse dès la maternelle. En fait, les questions sur la santé ou sur la sexualité qui intéressent les enfants, c'est moi, je suis fille, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Moi, je suis garçon, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Et pourquoi elle porte une jupe et moi porte... En fait, c'est vraiment lié à ces différences de genre. Donc ça, c'est important dès le plus jeune âge de leur dire, vous avez le droit de tout faire, normalement. Hein.
Oui, mais ça, c'est autant de la responsabilité des profs que des parents.
Et voilà, donc ça, c'est autant la responsabilité des profs que les parents, mais les représentations individuelles, c'est finalement, peuvent jouer là-dessus. Donc c'est très compliqué, au même titre qu'on n'apprend pas forcément la psychologie aux médecins quand il faut qu'ils annoncent des choses terribles à leurs patients, on n'apprend pas forcément ça aux enseignants. Ils sont pas forcément formés pour finalement mettre de côté leur propre représentation, rester un peu neutre, expliquer que l'égalité filles-garçons passe par cette acceptation de l'autre comme il est.
Tout ce que vous expliquez là, on est dans quelle catégorie, on est quoi, en primaire, on est dans quelle classe?
Alors, les plus petits, les questions, quand par exemple il y a des intervenants qui viennent leur parler du corps des enfants, ça tombe vraiment à pourquoi les filles et les garçons, c'est quoi la différence? En fait, c'est ça qui les intéresse. C'est-à-dire que...
En primaire?
Oui.
D'accord. Ensuite, est-ce que en CP, est-ce qu'en sixième, on apprend d'autres choses? Est-ce que l'éducation sexuelle, elle arrive en quelle année maintenant?
Alors, maintenant, depuis 2018, en fait, il y a une dernière loi, parce que les premières lois en France, ça date de 1973. Là, c'était plutôt tourné sur une toute petite éducation à l'hygiène, et ça concernait que les élèves de lycée.
D'accord.
Et donc, ça a évolué. Au fur et à mesure des années, il y a eu différentes lois et circulaires. Donc, la dernière en date, elle est de 2018, excusez-moi. Et
En quatrième, troisième,
j'imagine. Eh ben non, justement. En fait, cette circulaire dit qu'il faut une éducation à la sexualité à partir du primaire, dans les classes à partir du CP, ensuite du collège et du lycée. Donc, il y a on donne une sorte de cadre d'organisation. Donc, il faut organiser des séquences. En général, c'est 4 par an. Et puis,
c'est quoi le contenu pour un primaire?
Alors, justement, en fait, l'idée, c'est d'organiser ces séquences en fonction de l'âge et puis de la maturité des enfants. Donc, les séquences, alors, parce que quand on dit éducation à la sexualité, on pense, beaucoup de gens pensent à l'acte sexuel, ce qui, en fait, n'a rien à voir. En fait, on explique aux enfants, justement, la différence fille-garçon, le fait de respecter son corps, le corps des autres, l'hygiène, bien entendu, enfin, toutes les choses aussi dont on peut s'inquiéter quand on est fille au niveau des règles. Voilà, exactement. Donc, en fait.
Non, mais pardon, j'insiste pour prononcer le mot parce que ça m'énerve.
Mais je suis d'accord avec vous, mais vraiment, moi aussi, ça m'énerve.
Moi,
j'ai deux filles et ça m'énerve que, justement, ça soit stigmatisé alors que c'est juste un mot qui explique. En fait, il n'y aurait pas de règles, on ne serait pas là.
Pas d'enfant. Voilà, c'est ça.
Donc, c'est vrai que c'est un petit peu énervant que ça soit le sang bleu sur les tampons.
On est d'accord.
Je suis d'accord avec vous. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment les choses qui sont au niveau de la petite enfance. Jusqu'au collège. Alors au collège, on est plus dans la représentation biologique, physiologique du corps. Donc là, on va rentrer dans une vision un peu médicale, en fait, pas médicale, mais biologique, du corps, y compris quand c'est l'éducation à la sexualité, où là, on va parler un petit peu des rôles des spermatozoïdes, de l'ovulation,
comment faire des
reproductions, et comment faire des enfants. Voilà.
D'accord.
Mais on retire le côté affectif, c'est-à-dire c'est vraiment le côté, je dirais, purement physique, animal.
D'accord.
Je vous cache pas que la vidéo qu'on nous montre en quatrième avec l'accouchement d'une femme, ça a traumatisé des générations de filles, quoi.
C'est peut-être un peu tôt, dans l'accouchement en quatrième.
T'es féminine comme un lieu de procréation. Avant
c'est ça, c'est que ça. T'es une femme, tu as un vagin, donc tu vas sortir un enfant un jour de toi. Tu fais OK. Est-ce qu'il y a une autre solution? Est-ce qu'il y a une autre orientation possible?
Peut-être que c'est traumatisant aussi parce que vous n'avez pas eu une éducation à ça, à plus tôt, parce que dans la société, le corps reste tabou, surtout quand ça concerne la femme. Comme on l'a dit tout à l'heure.
On parle de la France. Est-ce que on est en retard vis-à-vis d'autres pays européens?
Alors, ni en retard. pas ni en avance. Un des premiers pays donc à avoir travaillé sur l'éducation au corps, la sexualité, voilà. C'est la Suède, voilà. Donc la Suède en 1955, mais c'est pas anodin de savoir que c'est aussi la Suède qui a donné le droit de vote aux femmes en 1919. Bon, bah voilà, vous voyez déjà, en fait, c'est tout un travail sur l'émancipation et l'égalité.
C'était 44 et 45 voilà. Pour la première fois où elles ont pu voter.
Voilà.
Donc ils étaient bien en avance sur tout, en fait. C'est une question de mentalité de la société.
On n'est pas les pires. Par contre, on n'est pas les pires parce que.
Non, mais on peut pas s'en contenter.
En Suède, on nous voyait à l'époque comme les pays arabes d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire, les femmes conduisaient pas, les pas chéquiers. On était d'un autre siècle, quoi.
En fait, ça dépend aussi un petit peu du contexte religieux, et de la façon dont, le politique et le religieux façonnent aussi cette vision.
Voilà. Qui s'occupe de tout ça à l'école ? C'est le prof de SVT, sciences nat, je sais pas comment il faut l'appeler.
Alors,
prof de gym aussi, oui. Non, mais le sport, ça aide aussi.
En fait, vous avez deux types de savoir sur le corps. Vous avez le type, les types justement physiologiques, c'est-à-dire donc là en SVT, effectivement, c'est là où on voit les fonctions du corps, l'alimentation, etc. Et puis la façon de la reproduction. Mais vous avez aussi des savoirs qui utilisent le corps, ce qui est le cas de l'EPS, c'est-à-dire que le corps dynamique est utilisé pour acquérir certaines compétences en EPS. Mais également en musique ou en théâtre, quand on va vous, certainement, vous avez peut-être un travail de pause. Poser votre voix, pour vous exprimer, pour bouger, etc.
Mon Dieu, si vous saviez, comme il n'y a pas de travail du tout dans cette émission.
On adorerait.
Mon Dieu.
Donc voilà, donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on veut toujours en plus séparer l'esprit, enfin le cerveau du corps, alors qu'en fait, l'un sans l'autre, on ne serait pas grand-chose.
Grand Sinagui peut faire la part des choses, bien sûr. Travaille tous les jours pour utiliser son cerveau.
Merci Marie Gossel.
Merci à vous.
Merci d'être venue à ce micro. Je rappelle que vous êtes chargée d'études et de recherches à l'Institut français de l'éducation.
Si je peux me permettre juste de rajouter.
Non, c'est trop tard. Au revoir, bonne journée.
Cet institut se trouve au sein de l'École normale supérieure de Lyon. Et par ailleurs, tout ce que je vous dis là, on peut le retrouver dans des publications qu'on fait, qui s'appellent des dossiers de veille. Voilà.
Je croyais que vous alliez dire tout ce que j'ai dit là, c'est pipo.
On lit de la recherche et on essaye de traduire un petit peu ce qui s'y passe.
Merci, Marie.
Tanguy Pastureau, bonjour Tanguy.
Bonjour.
Partout sur les réseaux sociaux, on voit Jawad Bedaoud.
Eh oui, il fait des pauses, il raconte des conneries, il fait rire. Et les gens, ploups, oublient qu'on est sur un type qui est héberger les terroristes de 2015. C'est la magie de l'humour et des réseaux sociaux. Kadhafi en 2011 avec Snapchat et un survêt, on le laissait peinard. Personne n'a envie de dégommer une star du LOL.
On en parlera après les infos de midi.
Oui.
Avec Leïla
Kadhafi,
Agnès Hurstel, Daniel Morin,
bonjour,
Tanguy Pastureau et notre invité Michel Simès.
Bonjour Michel.
La bête. Qui a dit ça ?
Maintenant, celui qui le pense. Maintenant que quand ça va, quand ça va pas a été fait, est-ce que vous avez déjà une idée, docteur Michel Simès, pour un autre livre, une autre édition chez Gallimard Jeunesse, où tout est dit, tout est fait sur le corps humain ?
Non, alors sur le corps non, mais en revanche, tel qu'il est présenté là, mais en revanche, on est en train d'écrire un livre qui sortira, je pense à la rentrée, comparaison des sens chez l'homme et chez les animaux. La vision, l'ouïe, l'odorat, etc. Avec des choses
On perd à tous les niveaux, donc j'imagine.
Non, c'est parce qu'on est un peu plus complexe dans notre organisme, mais c'est un bouquin pour les enfants, pour leur expliquer en quoi le corps humain est extraordinaire, mais en quoi les animaux ont parfois, chez certains, une vision plus importante ou nocturne, parce que c'est comme ça qu'ils chassent, ce qu'ils entendent, comment ils perçoivent les choses, et il va y avoir une comparaison, et c'est passionnant. Je suis en train de bosser avec Farah Kessri, qui est une vétérinaire, et moi j'apprends des trucs extraordinaires. Moi je fais la partie homme, et puis elle va faire partie animale.
Tiens, et pourquoi ? Parce que c'est quand même ce qui m'a...
Vous savez que vous allez vous faire défoncer sur les réseaux sociaux, hein. Vous faites l'homme et la femme fait l'animal, ça c'est...
Vous
allez vous faire tuer. J'avais
même pas pensé. Mais d'autres vont y penser, je pense.
C'est moi qui l'insulte sur Internet, donc je...
c'est toi Internet, très bien. Le truc qui m'a frappé, qui m'a sauté aux yeux en lisant votre livre illustré, c'est qu'on le connaît pas, ce corps humain. C'est quand même dingue de découvrir...
Et pourtant, tu le parcours.
Vieil homme, comme... Oui, mais que en surface, ouais, justement.
C'est dangereux, trop tard.
On s'intéresse pas. Et quand vous expliquez, par exemple, qu'il y a 7 mètres d'intestin la manière de manger, la manière dont le corps, cette machine formidable, décide de faire le tri entre ce qui est bien pour le corps et ce qu'il faut rejeter.
Mais c'est heureusement, j'ai envie de dire heureusement, parce que alors d'un côté, il faut absolument connaître son corps pour pouvoir écouter les signes qu'il peut nous envoyer quand ça ne va pas. Mais en même temps, si tout le monde savait tout, je vendrais pas de bouquins. Et puis les pouvoirs extraordinaires du corps humain avec Adriana fonctionneraient pas sur France 2. Donc voilà. Mais effectivement, je crois qu'il y a un certain nombre de choses à répéter sans arrêt. Les 7 mètres d'intestin, c'est quelque chose qui fascine tout le monde. Comment on peut avoir 7 mètres de tuyaux qui sont comme ça dans le ventre, dans la moitié du corps? Bah ouais, c'est comme ça. Et la machine humaine...
C'est beaucoup en plus, pourquoi autant?
Bah parce que si vous lisez bien le bouquin, vous verrez que chaque partie de l'intestin, à partir de l'ésophage, estomac, duodénum et intestin grêle et côlon, tout ça a un rôle précis pour l'absorption
si
des aliments.
Si vous lisez bien le bouquin que vous n'avez pas écrit, Michel Simès, vous verrez que oui, vous expliquez ces différentes étapes, mais pas pourquoi il y a 7 mètres.
Non, j'explique. Non,
mais il y a plusieurs étapes. Oui,
si
on
j'explique
l'a vu.
Tout sur un bouquin, je n'aurais plus besoin d'en écrire d'autres.
Voilà. Quel voyou. On retrouve le vrai Michel Simès. C'est Tanguy
Pastoureau.
Qu'est-ce qu'il y a, Tanguy? Vous n'avez pas l'air bien.
Non, Nagui, je suis déprimé. Les fans d'Antoine Parmentier diraient de moi que j'ai la patate, mais sous forme de purée. Si j'osais, je demanderais au docteur Simès un truc fort pour aller mieux, mais bon, Daniel Morin lui a déjà demandé un remède contre la mycose des pieds et Albert Algou du Viagra. Afin, nous a-t-il dit avec malice, de conclure, je le cite, avec cette petite meuf de mon immeuble, Hortense, ce sont ses 86 ans demain, et a-t-il ajouté, je n'ai pas eu le temps de lui prendre une Smartbox. Il avait alors dans les yeux le même reflet que Rocco Siffredi dans Batman à Rio. Film bourré de métaphores, puisqu'il y a un plan sur lui, un plan sur le pain de sucre, ce piton rocheux, un plan sur lui, etc. J'ai un ami qui, par manque de coordination, a joui au moment du plan sur le pain de sucre, il est devenu géologue. Si je suis triste, c'est parce que je me crève à écrire chaque jour des vannes imparables. Si Buster Keaton était toujours là à propos de moi, il dirait... Oui, il faisait du muet. Et au final, cette semaine, je suis passé dans C'est à vous, dans le quotidien. Mais pour parler de quoi? Du film Tanguy. Vous l'avez dit hier, Nagui, je débite des chroniques tel le bûcheron québécois des arbres morts. Parfois, il entend arrêter. Je ne suis pas un végétal, je suis Robert Charlebois. J'ai plus rien si je suis coiffé comme un arbuste. Et tout ce qu'on va retenir de moi, c'est que mon prénom devient un nom commun qui sert à désigner les précaires contraints de rentrer chez leurs parents par manque de flouze. Parce que le phénomène Tanguy, c'est ça. Filez 4000 balles à votre fils de 9 ans, direct, il vous dit salut gros, il se prend un appart en centre-ville. C'est l'argent qui est à la base de l'amour entre les êtres. Mais je vais vous dire, c'est de ma faute si après 2 ans sur Inter, j'ai aussi peu de succès que le string à paillettes dans la banlieue afghane. Parce que je suis un vieux schnock, comme elles disent plus que les vieux schnock, en train de faire des piges à la radio, ouais. Le média d'avant-hier, alors que pour devenir énorme dans l'humour, bah, y a pas besoin d'écrire, ni même de connaître des mots, il suffit de devenir un mème. Alors un mème, c'est sur les réseaux sociaux, une image fixe, exemple une photo de Gérard Collomb qui dort à l'hôtel de ville, ou une image animée, exemple une vidéo de Gérard Collomb qui dort à l'hôtel de ville de Lyon. Là, des gens trouvent le truc tellement drôle qu'ils le font tourner. Avec les algorithmes, ça devient viral. Tout le monde écrit LOL, JPP, ARF, MDR, onomatopée qui exprime le rire. Les plus anciens écrivent J'ai bien ri. Édouard Balladur écrit Ce fut un moment de détente, bienvenue. Jean-Marie Bigard écrit Putain, je me suis chié dessus. Et ça tourne, tout le monde le voit. Exemple, en 2015, des protecteurs des oiseaux avaient détruit des pièges à pinsons dans les Landes. Placés là par des chasseurs qui avaient monté ça plutôt que des pièges à cons parce que vouloir se piéger soi-même n'a pas de sens. Là était sorti d'une maison un type armé d'une pelle en slip à carreaux. Pas la pelle, hein, le type. Les pelles ne portent pas de slip. Ou alors si vous en mettez un à votre pelle, c'est que vous avez une relation bien trop pudique avec le jardinage.
Et cet homme en slip est vite devenu un mème.
Oui, les gens l'ont trafiqué sur Photoshop. Il s'est retrouvé en slip dans l'espace, en slip avec Merkel. C'est devenu une star. Aujourd'hui encore, quand il entre chez un revendeur sloggy, les mecs sortent le tapis rouge. Et l'été, il fait la tournée des plages avec ses slipettes. 4 danseuses en slip. Mais pire, cette semaine, Jawad Ben Daoud est devenu un mème. Ben Daoud, le Airbnb du terrorisme. Le mec qui a hébergé les crevures du 13 novembre 2015. 137 morts. C'est pas très drôle à la base. Je suis Philippe Lachaud. On me propose un scénario sur Ben Daoud. Je réponds, écoute vieux, je vais plutôt partir sur mon idée d'une bande de potes dont l'un chope la syphilis à Cancun. Mais là, Ben Daoud devient une star des réseaux sociaux parce qu'à la sortie de son procès, il est apparu avec le regard de Clint Eastwood s'il se retrouvait face à un communiste en marchant comme un cow-boy. Mais depuis le début, le gonze surjoue le rôle du parfait crétin juste pour qu'on se dise il était tellement con qu'il pouvait pas savoir qu'il logeait des terroristes. Sa vidéo est la plus vue sur Twitter en 2019. 100 millions de vues aux États-Unis où il est une star. Jean Dujardin, il s'est bien plombé à présenter ses films aux States. Un bail de 4 jours au nom des frères Kouachi, les assassins de Charlie, une grimace dans le hall du tribunal, ça marchait tout autant. Mais des gens sont pris de
sympathie pour le gonze. Il l'appelle Jawad. Quand on zappe votre nom de famille, c'est qu'on vous adore. Dans une conversation, si quelqu'un vous parle d'Hitler, c'est qu'il s'y intéresse. S'il vous parle d'Adolphe, vous sentez de suite que la grosse soirée fait la fête que vous aviez prévu le 24. C'est pas la peine de le convier. ORN. Marine Le Pen, ses fans l'appellent Marine. Elle n'a pas de nom. Chez les Verts, Yannick Jadot. Bon, bah, on l'appelle pas parce qu'on sait pas qui c'est. Mais Ben Daoud, donc, joue les abrutis, sans doute poussés par ses avocats. Le LOL est en train de faire un hold-up sur la justice. Mais ce sont les vidéos de ce mec que Facebook devrait virer. Pas les reproductions de tableaux de maître où un téton se bat avec un poil pubien. Oui, certains modèles de l'époque étaient très souples. Mais les familles des 137 morts et des blessés, elles voient Ben Daoud toute l'année faire le kéké. 850 000 abonnés sur Snapchat, il a. Plus qu'une Instagrammeuse à gros seins. Landru, en 1920, 3 vannes sur Twitter, il se mettait tout le monde dans la poche. Ben Daoud trouve ça drôle, je trouve ça déprimant. Si c'est ça l'humour, bah je laisse tomber et vous me retrouverez ce soir à la télé pour parler du film Tanguy.
Non, viens là demain, merci. La bande originale, Nagui,
sur France Inter. Michel Simès signe donc quand ça va mal, leur corps
explique. Quand ça va pas.
Quand ça va pas.
Je fais un bouquin pour la lecture, pour les nuls après.
Pour la myopie aussi.
Et notamment, puisqu'on avait commencé à parler des vaccins, vous en parlez, oui, de ces vaccins, vous parlez d'anesthésie, vous parlez pas uniquement le corps humain au sens de la description, mais également de ce qui se passe au niveau médical.
Oui, pour dédramatiser un peu tout, finalement, les gestes de base de la médecine, la vaccination, il faut comprendre à quoi elle sert pour l'accepter.
Pour pas avoir peur de la piqûre, c'est ça? Pour pas avoir... ça fait toujours mal.
Oui, alors on a la chance aujourd'hui d'avoir une pommade ou des patchs qui permettent d'anesthésier la peau de l'enfant et dont il faudrait se servir un peu plus. Certains oublient de le faire parce que ça fait gagner du temps.
L'anesthésie, vous l'expliquez aussi, c'est-à-dire la manière avec laquelle on peut endormir quelqu'un,
vous
le mettre
un
masque.
Vous avez opéré quand vous étiez petit ou pas? Des amygdales.
Opéré grand du genou, mais c'était ma première opération, j'ai découvert le truc.
Moi j'ai été opéré des amygdales quand j'étais petit, on m'a mis un masque sur le nez, on appelle un embout, c'est un embut, c'est-à-dire que ça vous envoie du gaz pour vous endormir. J'ai encore le souvenir, j'ai encore l'image aujourd'hui, j'ai dû être opéré, j'avais 8 ans quoi, mais j'ai encore l'image aujourd'hui parce qu'on m'avait pas prévenu. Aujourd'hui les anesthésistes font plus attention.
Quelles sont les pathologies les plus fréquentes chez les jeunes enfants, les enfants en fait?
Les pathologies les plus fréquentes, c'est celles qu'on a presque en couverture là, avec le nez dégueulasse.
Le rhume, mais au-delà du rhume, de tout ça.
C'est un peu toutes les maladies infantiles. Alors aujourd'hui, c'est presque pas le problème des maladies les plus fréquentes, mais des conséquences des maladies. Par exemple, vous savez qu'à quand on était à l'époque, quand on était petit avec Nagui, on faisait sauter l'appendice très rapidement, parce que dès qu'on avait mal au ventre en bas à droite, on disait que c'était l'appendicite. On n'avait pas les examens qui permettaient d'être sûr que c'était ça, mais dans le doute, pour éviter les complications, notamment la péritonite, etc., on ouvrait, on l'enlevait, elle était rouge et inflammatoire, on se disait c'était bon, elle était saine, on disait comme ça, il fera pas d'appendicite. Les angines, on se faisait très très vite, on retirait les amygdales sur les tables de cuisine à une époque. Aujourd'hui, avant d'opérer les amygdales, il faut vraiment qu'il y ait 4 grosses angines par an, bien documentées par le médecin. Donc les choses ont évolué.
Comme
ce sont les mêmes pathologies.
Ça,
ce sont les mêmes pathologies, mais les traitements aujourd'hui sont différents.
Justement, le dentiste est présent aussi, c'est-à-dire que tous les corps de la médecine sont représentés. C'est peut-être celui qui fait le plus peur, non, le dentiste?
Pareil. La fraise, la fameuse fraise.
Mais
même encore aujourd'hui, quand
avec
vous avez...
l'odeur aussi, c'est ça.
Ah oui, il y a un truc de cramé un peu.
Il y a l'odeur de... qu'on t'attaque, quoi.
Ouais, il y a l'odeur de cramé, l'odeur de clou de girofle, vous savez, parce que...
C'est un anesthésiant.
Alors c'est vrai que, le dentiste fait... Mais quand on va chez le dentiste, même en tant qu'adulte, on n'y va pas.
On n'y va pas.
On y va reculons un petit peu quand même.
Il y a des super dentistes, par ailleurs.
Non, c'est super, mais aujourd'hui, même pour un détartrage que les gens devraient faire plus souvent, on a quand même, si on a les collets un peu sensibles, c'est pas hyper agréable comme ça. Je sais pas si vous avez les collets sensibles. C'est pas cochon, hein.
Si je me sens clean, c'est-à-dire je me dis que j'ai été nickel, tout ça, j'y vais confiante. Mais dès que je sens que éventuellement, que j'ai un peu fauté, là j'y vais, j'ai le
péché.
Ouais, j'ai peur.
Il faut aller chez le docteur tous les combien?
Tous les jours.
Pour les...
Pardon.
Chez moi. Ouais. Non, mais ça dépend ce que ça dépend de votre âge.
Si on a, non, même si on n'a rien.
Ah bah il faut il faut au moins se faire une analyse de sang par an. Enfin moi c'est carrément ce que je préconise. Ouais. Alors il y a les recommandations doivent être, j'en sais rien parce que je suis pas généraliste, mais ça doit être tous les 2 ans ou 3 ans. Moi je trouve qu'il faut une prise de sang par an pour aller voir si on n'a pas trop de sucre, parce que c'est comme ça que commence le diabète. Faire une prise de tension artérielle tous les ans. Voilà, faire un petit bilan, pas grand chose.
C'est vrai qu'on
mais...
peut détecter les cancers dans le sang. Il y a des prises de sang qui détectent la présence de cancer.
Il y a des marqueurs. Alors chez certains, alors c'est pas encore. Il y a des marqueurs effectivement qui se promènent dans le sang.
Je crois que c'est une française qui a découvert ça.
Oui, c'est une française de Nice qui sur certains cancers du poumon notamment. C'est pas encore quelque chose qu'on fait régulièrement, mais de toute façon la médecine.
Ça coûte une fortune.
Oui, puis la médecine ira vers ça. C'est-à-dire que un jour on va détecter probablement par des prises de sang régulières des cellules cancéreuses qui se promènent et qui aujourd'hui ne sont pas détectables parce que trop petites, parce qu'on n'a pas la technique nécessaire. Bon. Mais un jour, ça sera ça. Un jour, on n'aura pas besoin.
Vite et avec un cancer, plus vite, mieux on soigne. En tout cas.
Le principe, c'est que plus vous détectez un cancer, ouais, surtout s'il n'est pas détectable par les examens radiologiques, l'IRM ou quels que soient les examens et leur performance, il y a par définition, à partir du moment où un cancer se développe et qu'il est à 10 cellules, vous ne le voyez pas. Donc, si jamais on arrivait à détecter des marqueurs dans le sang dès que le cancer commence à évoluer, il suffirait de le traiter avant même qu'il fasse des dégâts.
Mais c'est bien en tout cas de souligner que c'est un médecin
français
à Nice qui peut trouver cette solution pour la planète entière. En tout cas, docteur Michel Simès, avec Laure Monloubou, je le rappelle, vous propose ce livre illustré, Laure s'occupant des illustrations et Michel s'occupant justement de la partie quand ça va, quand ça va pas, et également ce que le docteur peut faire pour expliquer le corps aux enfants, leur corps aux enfants et aux parents, avec le succès déjà 40 000
exemplaires, et là c'est une réédition chez Glénat. Ouais.
Voilà. 40 000 exemplaires, avec ce succès, Daniel, on voit qu'il est important pour les jeunes de connaître leur corps, que c'est une façon de se découvrir, mais aussi de découvrir le corps des autres et différences. C'est un apprentissage finalement presque autant médical que citoyen social.
Ah, docteur, à l'aide, je vais crever. Filez-moi vos suppôts au calva que je m'enivre par le croupion. Tant que vous êtes, allez-y, lancez la procédure, je vous couvre. Euthanasiez-le. Oui, c'est ça, une petite piqûre dans le cou, et hop, au ciel, le satyre de Louxor. Oh, ce serait tellement bien, je vois ça d'ici. Tiens, je serais tellement heureux que je crois que... Ouais, je dirais même quelques mots à son enterrement.
Je suis pas militaire.
Salut à toi, monsieur Guy, salut. Alors, pour être franc, j'aurais aimé l'artiste que vous fûtes, mais j'ai détesté l'homme que vous étiez. Vous aviez eu une belle et longue carrière, plus longue que belle, c'est évident. Aussi longue que vos questions, c'est pour dire. Allez, j'arrête de rêver, car je vous connais, vous ne me ferez même pas cette joie. Du coup, encore une fois, aujourd'hui, vous m'assommez avec vos platitudes immondes. Et qu'il faut connaître son corps, ni ni ni. Et que c'est découvrir l'autre, ni ni ni. Et que c'est citoyen, ni ni ni. Putain, vous osez tout, monsieur Guy. Mais je vous le dis droit dans les yeux, en m'agenouillant, bien sûr. C'est pas comme ça que vous allez récupérer la place de numéro 1 des animateurs, des Français qui préfèrent. Non, 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 non. Chaque fois que vous prononcez une phrase, c'est des points en plus dans l'escarcelle de Michel. Le chouchou de la ménagère de moins de 50 ans qui rêve que ce bon docteur vienne lui faire un examen de la prostate. Et puis, arrêtez de vouloir pervertir notre jeunesse. Déjà que vous lui faites assez de mal tous les soirs en lui abîmant les tympans à coups de karaoké inspiré par l'inaudible Christophe Maé ou le répugnant Claudio Capeo. Non, il ne faut pas connaître son corps, car le corps, c'est sale, c'est laid, c'est le début de la mort, c'est la perversité, c'est le stupre, c'est les odeurs... Quoi, elle est là? Oui, tu as raison, c'est les maladies aussi, hein. Ah, monsieur Guy, vous êtes solide comme un fémur de footballeur. Vous êtes musclé comme un cul de pompier. Vous êtes souple comme un bassin d'acrobate. Mais vous êtes perdu comme un prépuce de rabbin, hein. Pour découvrir son corps, il faut être en confiance. Moi, mon petit neveu, ma sœur. Mon petit neveu. Mon petit neveu. Docteur, j'ai un problème à la bouche. Mon petit neveu. Ma sœur ne savait pas comment faire pour lui parler du corps. Elle lui a même acheté le livre de Docteur Simès. Quand j'ai vu ça, j'ai pris le bouquin, je l'ai balancé. Et je l'ai immédiatement abonné à YouPorn. C'est vivant, c'est ludique, c'est bien filmé. Bref, c'est l'éducation, c'est l'initiation au corps de façon ludique, précise et artistique. Désolé, monsieur Guy, mais une fois de plus, mon petit ami, vous avez dit...
N'importe quoi.
Voilà.
Avec Nagui. Et mise à votre...
c'était stigmatisé. Les personnes âgées.
Ah, il était beau celui-là.
Bon, Albert rire.
Michel Simès, il n'y a pas que le succès de Quand ça va, Quand ça va pas.
Il y a cette chez... place de numéro 1 d'animateur chez... préféré. Ouais,
hein. Non, parlons pas.
Mais si, parlons-en, parce que ça ne va pas durer.
Ça fait 3 ans que vous m'annoncez ça, monsieur Guy.
Oui, j'y travaille, écoute, qu'est-ce que tu veux. J'attends la fin, parce que tu es plus vieux que moi. Du lundi au vendredi, chronique sur...
Je ne prendrai pas ma retraite. Tant que je serai animateur c'est préféré des Français,
merde,
devant toi.
Merde, voilà. Okay. Ça va beaucoup mieux, c'est sur RTL à 8h15, c'est ça?
Ouais, tous les matins.
Tous les matins. Il y a le magazine santé bimestriel Dr Good.
Ah, c'est vrai.
Alors, ouais, bimestriel Dr Good, et puis un trimestriel C'est Bon, qui est en fait le Dr Good adapté à l'alimentation, qui est, et j'en suis assez fier, j'avoue, le meilleur lancement magazine presse depuis 10 ans.
60 000, c'est
deux, ça? Non, Dr Good, 210 000 exemplaires vendus. Wow. Et C'est Bon, on en est à plus de 100 000 pour le deuxième numéro.
Je parlais du succès hier soir de votre talk show médical, je sais pas, on qualifie comme ça, talk show médical.
Ouais, ou... c'est un talk show, ouais, c'est un talk show voilà. Consultation, fausse consultation médicale.
La mise en scène est médicale, voilà. et le fond est talk show, ça ne sortira pas d'ici. Hier, avec ses 12% de part de marché, 1,3 million, c'est-à-dire que c'est la meilleure part de marché, de téléspectateurs de toute la chaîne.
En deuxième partie de soirée, clairement. Je sais pas, mais je suis très. Oui, si vous dites, je suis très heureux. Oui.
Je crois. Ouais. Les prochains invités, ce sera la semaine prochaine, puisque c'est par salve. Hein,
c'est
tout. Ouais,
voilà. C'est mercredi prochain, toujours à 22h40 à peu près.
Alors j'ai les invités. Ouais. Il y aura Vaimalana Chavez, c'est-à-dire Miss France, Stéphane Bern et Michel Leeb.
Et Michel Leeb, et vous apprendrez que Stéphane Bern collectionne les sacs en plastique. Un truc de dingue.
Il collectionne. Ou il les ramasse pour pas les jeter à la poubelle.
Il ne peut pas jeter un sac en plastique. Il a son bureau qui est bourré de sacs en plastique et il met les sacs les uns dans les autres.
Oui.
Mais il le dit très sac spontanément. Il dit que c'est un truc, voilà. C'est un sacophile. C'est un truc complètement.
Il paraît qu'il en bouffe certains.
Et vous avez été aussi comédien dans un meurtre en pays d'Oléron.
Oui.
Est-ce que.
Il me regarde. Pourquoi vous me regardez comme ça?
Parce que je veux savoir s'il y aura un autre meurtre ou une autre série.
Je vais devenir comédien préféré des Français aussi.
C'est votre véritable moteur, ça, être comédien.
Oui, enfin, c'est un des moteurs. Si. Non, ça sortira pas d'ici. Est un de mes moteurs parce que je m'éclate à faire cette émission, vraiment. Je rencontre des gens extraordinaires et effectivement, si l'an prochain on peut me permettre de faire une autre fiction, je serai très heureux parce que ça m'a beaucoup amusé.
Est-ce que vous allez jusqu'à l'écrire cette fiction dont vous rêvez?
Je pars dans une quinzaine de jours avec deux copains pendant 10 jours, m'isoler pour écrire une pièce de théâtre.
Et votre femme le croit.
Et ma femme me croit, j'espère, parce qu'il faut qu'elle reste ici, il ne faut pas qu'elle vienne me voir. Et je la salue parce qu'elle doit nous écouter. Je t'embrasse, Nathalie. Et Nagui aussi.
Et alors, j'embrasse Nathalie. Une pièce de théâtre, pas une fiction télé, ni
j'ai
un
envie,
film.
Non, j'ai envie de faire une pièce, d'écrire une pièce de théâtre.
Et de jouer dedans.
Je verrai. Je verrai, mais pour l'instant, ça veut dire oui, mais c'est pas possible. Ça veut dire que j'aimerais bien, mais je vais voir comment
tous les soirs être au théâtre avec tout ce que vous faites à côté.
C'est un des problèmes. De toute façon, attendez, entre le moment où on va l'écrire, le moment où éventuellement un producteur va l'apprendre, etc. Et je travaille avec Philippe Lelièvre sur ce projet.
Il est formidable,
ce comédien. Voilà, on va coucher tout sur le papier parce que c'est une sorte de cœur des hommes ou d'un éléphant sa trompe, mais que dans le milieu médical, où ce sont
trois potes.
Ils sont cinq même.
Ah, d'accord.
Cinq potes qui se retrouvent.
Les trois potes, c'est pour l'écrire.
Cinq personnages qui se retrouvent dans un dîner régulièrement pour parler des coulisses de la médecine et des patients comme vous ne savez pas que les médecins parlent de vous.
D'accord. Et c'est fait pour être drôle, évidemment, mais pas loin de la réalité non plus.
Mais complètement dans la
réalité. D'accord. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
C'est contagieux. Pensez à la vaccination. Désolé pour Nagui qui a découvert ce matin avec la playlist de Michel Simès qu'après avoir piqué la première place des animateurs télé, il avait un sacré concurrent pour Taratata, avec entre autres Plastique Bertrand, Jeanne Masse. Ouf, heureusement ils sont morts tous les deux. Désolé pour toutes les femmes qui auraient aimé avoir Michel Simès comme gynécologue. Alors comment vous dire, connaissance qu'il a dans le crâne, ayant pu observer son hygiène, je peux vous dire qu'il a bien fait de devenir garagiste. Désolé pour tous les Français qui ont voté Michel Simès comme animateur préféré et qui ont découvert un lycéen qui rate son bac, un étudiant qui triche pour pas payer ses places au foot, un trouillard qui a peur du vide, un salaud sexiste, un immonde raciste et
Ah bah non, non, pardon. Finalement, vous avez tout à fait le profil pour être numéro un des animateurs. Non, non, bravo. Non, pardon. Autant pour moi.
Quand ça va pas, leur corps expliqué aux enfants et aux parents, avec les conseils du docteur Michel Simès, avec les illustrations extrêmement claires, ludiques et sympathiques de Laure Monloubou. Et puis c'est ce côté, encore une fois, très, peut-être, allez, on va dire, scolaire, comme ça, très pragmatique.
Oh, de pédagogique.
Pédagogique, oui. Le corps, ouais. Non mais voilà, didactique, le pharynx, ouais. Les amygdales, l'œsophage, et puis après,
ça marche pour les adultes.
On
aussi.
Voit, ouais, on voit comment même il faut faire l'histoire de la fausse route aussi quand on avale de travers et qu'on a peur, ça peut être très dangereux
avec
d'ailleurs la fausse route.
Ouais, ouais. Avec les gestes à faire. Et
est-ce que ce que fait le docteur ou ce qu'il peut faire en tout cas pour vous soigner, c'est chez Glénat Jeunesse. Merci Michel
Merci
d'avoir trouvé
vous
le
tous.
Temps.
Ça m'a fait plaisir de revenir humer cette
Merci
bonne ambiance.
Michel.
Demain, Yann Arthus Bertrand sera notre invité tout de suite des carnets de campagne de Philippe Bertrand.
Oui, bonjour Nagui, bonjour les amis.
Salut.
Et finalement, ça s'est bien passé aujourd'hui.
T'as vu, on est à l'heure.
Mais non, mais vous étiez sceptique hier en disant, oh, Michel Simès.
Ah ben non,
aller.
Moi je. Non,
on est pas c'est une catastrophe, personne va écouter. Surtout, n'écoutez pas, vous avez même dit.
On n'a pas envie, on n'avait pas envie qu'il vienne. C'est pour ça qu'on l'a invité pour pas qu'il revienne.
Ah, voilà.